cette première partie. Merci aussi à Daniel qui nous a aussi fait partager la Sainte Cène avec émotion, n'est-ce pas? Cela fait très très longtemps qu'on n'avait pas partagé les éléments du Seigneur tous ensemble. Enfin, c'est la deuxième fois quand même, mais je pense que pour certains d'entre nous, c'est la première fois aussi. Est-ce que vous croyez à une coïncidence? Coïncidence. Avec le Seigneur. On n'appelle pas comme ça. Hein? Alors, c'est ce qu'on appelle comment? La volonté de Dieu, peut-être? Vous savez, dans la Bible, il y a à peu près 31 000 versets dans la Bible. Et quelle est la probabilité de parler pendant la présidence et la prédication le même texte? En fait, je vous dis cela parce que Jean-Pierre a déjà introduit le message de ce matin en parlant de l'histoire de Pierre. En fait, le titre de ma prédication, c'est « M'aimes-tu ?» Je pense vraiment que le Seigneur veut nous poser cette question. Ce matin, les Vendôpériens, les gens de l'église de Vendôme, est-ce que vous m'aimez? M'aimes-tu, toi? M'aimes-tu? Après la résurrection, oui, Jésus se manifeste à quelques-uns de ses disciples au bord du lac. Puis il prend à part son apôtre Pierre et il va lui confier une mission. Sois le berger de mes brebis. C'est une tâche importante, mais aussi difficile. Et pour accomplir cette mission difficile, il ne lui demande pas de bien assimiler tous ces enseignements qu'il a pu recevoir pendant 3 ans, ou encore différents enseignements. Il dit tout d'abord, il pose cette question, m'aimes-tu? Est-ce que tu as de l'amour pour moi? Et il pose même 3 fois pour vérifier. Alors le texte est dans Jean, chapitre 21, verset 15, que j'aimerais vous lire ce matin. Je vous lis. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, « M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Voilà donc, il pose la première question. Mais je pense que avant de continuer le texte, ce serait quand même intéressant de revoir un petit peu le contexte du chapitre 21. Alors, après la résurrection de Jésus, les disciples rencontrent donc Jésus ressuscité. Ils l'ont même rencontré 2 fois. Alors, quelle aurait été votre réaction après avoir rencontré Jésus? Moi, j'aurais dit, super, youpi, maintenant que notre Seigneur qui est mort, il est ressuscité, on va changer le monde, on va transformer le monde. Est-ce que vous auriez eu ce sentiment? En fait, apparemment, les disciples qui ont rencontré les 2 fois Jésus n'avaient pas ce sentiment. Au contraire, ils étaient encore découragés de ce qu'ils allaient faire. D'ailleurs, Pierre se demande qu'est-ce que je vais faire, et il va reprendre le métier d'avant. Il va redevenir pêcheur, et il demande même aux autres disciples s'ils veulent suivre pour remettre dans les selles pour gagner de l'argent. Et donc, à ce moment-là, les 6 autres disciples le suivent. Il s'agit de... après Pierre, il s'agit de Thomas, Nathanaël, Jean-Jacques. Vous savez, donc, les 3 disciples favoris sont présents. Hein. Pierre, Jean-Jacques, hein, ils sont tous présents. Et puis les deux autres disciples. Donc, en tout, 7 disciples se réunissent pour reprendre le métier de pêcheur. C'est vrai, ils étaient appelés à être pêcheurs d'hommes, mais là, ils redeviennent pêcheurs de poissons. Et durant toute la nuit, Ils ont essayé de pêcher quelque chose, mais ils n'ont pas eu un seul poisson. Alors, Jésus, de loin, en les voyant travailler pour rien, leur demande de jeter le filet du côté droit de la barque. Et finalement, ils écoutent, donc ils obéissent à cette parole d'une personne qui est de loin. Et ils vont essayer, et puis il prend, en fait ils avaient pris une grande quantité de poissons, exactement 153 poissons. Et là, ils se rappellent de ce que Jésus avait fait au moment de leur appel. C'était à peu près la même condition. Et Jean se dit, ah mais c'est Jésus. Et Pierre, quand il entend Jean dire, ah mais c'est Jésus. Et là, tout de suite, il met son vêtement, puisqu'il était nu, en pendant son travail, et il se jette dans la mer pour aller rejoindre Jésus. Lorsque tous les disciples arrivent, Jésus avait allumé des charbons, il avait déjà préparé du poisson, du pain, et puis il dit même, apportez-moi aussi vos poissons que vous avez pêchés. Et il va encore cuisiner pour que ses disciples mangent et qu'ils soient satisfaits. En tout cas, ici, pour la troisième fois, Jésus se montre auprès de ses disciples. Alors, après un très bon repas, vous savez, ils étaient vraiment fatigués parce qu'ils avaient travaillé toute la nuit. Et le matin, après donc un bon repas, vous savez, quand on a faim, on n'est pas très bien, on n'entend pas le vrai message que le Seigneur nous parle. Et là, apparemment, maintenant qu'ils étaient rassasiés, Jésus prend à part Pierre et lui dit, « M'aimes-tu, Pierre, fils de Jonas ?» Cette question, ce matin, Dieu nous pose aussi, « M'aimes-tu ? M'aimes-tu, Jean-Haut ? Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Plus que tout autre ?» Et il lui pose trois fois la même question. Vous êtes, non seulement moi, mais vous êtes aussi tous appelés à avoir un ministère. Vous êtes tous les ambassadeurs du Christ. Vous êtes tous appelés à être disciples du Christ. Il n'y a pas que le pasteur qui doit avoir un ministère. Non, pas du tout. Loin de là. Le pasteur peut-être pourrait être un coordinateur. Mais les acteurs, c'est vous. Vous êtes plus dans le monde et vous êtes appelés à être vraiment sel et lumière dans le monde. Et donc Jésus, en tout cas, je reviens à l'histoire de Pierre, voulait rappeler à Pierre, qui lui avait confié à être berger, il lui demande une seule condition, m'aimes-tu vraiment ? Cet amour, dans les évangiles de Jean, nous pouvons retrouver plusieurs fois. Déjà dans Jean 1, il parle de la gloire du Fils unique venu du Père par amour pour nous. La parole faite chair par amour pour nous. Dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde. On voit encore l'amour de Dieu envers son peuple. Dans chapitre 13, verset 1, il dit encore « Son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. » C'est-à-dire, Jésus, oui, était prêt à donner sa vie, se sacrifier par amour pour les siens. On voit l'amour de Dieu vers son peuple, vers ses enfants. Et puis, chapitre 13, verset 34, il est dit encore, Jésus leur dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Être disciple, être un vrai témoin, fidèle, c'est être aussi, c'est avoir l'amour de Dieu, bien sûr, premièrement, mais aussi qui entraîne vers l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres. Et ce matin encore, Dieu nous pose cette question. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Je vais peut-être approfondir un peu ce texte. Vous savez qu'en grec, le mot « même-tu » est écrit de manière différente. Il y a deux verbes qui sont utilisés. Il s'agit du verbe « agapeo », donc qui veut dire « aimer », mais aussi un autre verbe que Jean utilise, c'est « phileo ». « Phileo » qui veut dire aussi « aimer ». Souvent, dans les prédications d'avant, peut-être vous avez déjà entendu en disant que... Parce que Jésus pose la question, d'abord, les deux premières questions, c'est « m'aimes-tu ?» « M'aimes-tu ?» Il utilise le mot « agapeo ».« Agapeo ». Et à chaque fois, Pierre répond en disant « phileo ». Il utilise le mot « phileo » pour dire « oui, je t'aime ». Tu sais que je t'aime, mais il utilise le mot « phileo ». Alors les gens se sont dit « ah, peut-être que le verbe « phileo » est beaucoup moins fort que le verbe « agapeo ». Et finalement, la troisième question, il dit « est-ce que tu m'aimes ?» Et cette fois-ci, Jésus utilise le mot « phileo ». Et là, il dit « oui, phileo » aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le mot « phileo » veut dire « amour », mais avec « ouais, je t'aime bien » Est-ce que c'est ça? Souvent, on a un peu traduit de cette manière-là. Et si on regarde toute la Bible, l'utilisation de « agapeo » et de « phileo », c'est quand même pas aussi évident, parce que « agapeo » dans Luc 11, 42, désigne l'amour des pharisiens pour les premières places. Donc, c'est pas forcément l'amour inconditionnel, etc., etc. L'amour de Dieu vers son peuple. L'amour vraiment pur, parfait. Par contre, oui, dans Jean, souvent, c'était plutôt l'amour parfait, quand même. Dans Jean 15, 13, on voit l'amour de Dieu qui est utilisé pour l'homme. Et là, c'est vraiment agapeo. Dieu qui aime son peuple de manière inconditionnelle. Dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde. Là, il a aussi utilisé le verbe agapeo pour dire c'est un amour inconditionnel. Le Père qui aime son peuple, ses enfants. Et puis dans 15, c'est pareil, Dieu, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour, encore une fois, agapeo. Donc, c'est vrai que le verbe agapeo est très important. On pourrait même dire que c'est un amour inconditionnel, sauf peut-être, on voit dans Luc, de manière un peu différente. Phileo, c'est un verbe plutôt utilisé pour une relation plus personnelle, plus intime. Ou aussi, on voit quand le Père aime l'Église. En tout cas, tout cela, je pourrais encore vous donner des exemples. C'est le théologien Linda Hoyer qui a un petit peu parlé de cela, sur la différence entre ce verbe agapeo et phileo. Mais ce matin, c'est pas pour ça que j'ai choisi ce texte. C'est pour ne pas dévaluer le mot phileo. On a tendance à dévaluer le mot phileo. Non, quand il dit je t'aime Seigneur, c'est parce qu'il y a une authenticité, il y a une sincérité. Oui Seigneur, je t'aime. Pas autant que parfaitement, mais je t'aime. Je t'aime. Il faut aussi se rappeler, au moment de l'arrestation de Jésus, il a renié Jésus trois fois après. Même juste avant, il disait à Jésus, « Si les autres te reniaient, moi je te renierai jamais. Et que moi je serai toujours prêt à être avec toi, même dans les moments difficiles. » Il avait même confessé cela, avec détermination. Et d'ailleurs, il a montré cette détermination en disant que, au moment de l'arrestation, il y avait donc pas mal de serviteurs du souverain sacrificateur qui est là pour arrêter Jésus. Et lui, il prend son épée et il coupe l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » On voit son dévouement, son tempérament impétueux, il aime vraiment le Seigneur, il l'a montré, je pense que, il n'avait pas peur de toute cette autorité. Mais plus tard, après l'arrestation de Jésus, quand une petite servante, une servante de ce même souverain sacrificateur le voit, et lui pose la question, « T'es pas avec ceux des Galiléens ?» Il dit non, pas du tout. Il le nie, il renie Jésus trois fois. Il a dû comprendre après coup, donc après la résurrection de Jésus, parce qu'il s'est repenti, etc., etc., il a vu Jésus ressuscité. Il a dû comprendre que même s'il était prêt à suivre Jésus n'importe où, mais il arrive aussi de ne pas pouvoir respecter ses paroles et ses engagements, selon les circonstances. Donc ici, lorsque Jésus lui demande s'il l'aime, il répond avec humilité. « Oui, je t'aime vraiment de manière agapéo, parfaitement, de manière inconditionnelle. » Au lieu de dire cela, comme il a connu déjà un échec dans le passé, il dit « Oui, je t'aime vraiment. » Mais c'est vrai, mais tu le sais toi, tu le sais mon cœur, tu le sais mes sentiments. Et puis, il répond, en fait, on voit une certaine humilité qu'il a acquise à travers son échec. Il est devenu, je dirais, plus mature. Si le Seigneur vous posait encore cette question ce matin, comment vous répondriez ? M'aimes-tu ce matin, cher enfant ? Et là, vous répondriez, oui, Seigneur, je t'aime, et tu le sais. Ou, je t'aime bien. Je t'aime bien. Quand tu ne touches pas à mon zone de confort, là, je t'aime bien. Ou peut-être que les gens répondraient, non, là, pour l'instant, avec le confinement, je préfère être un petit peu distant avec toi, parce que ça ne m'arrange pas trop. Hein? Il peut y avoir peut-être plusieurs réponses. Mais vraiment, ce matin, j'ai eu la conviction, avec l'intervention de Jean-Pierre, cette question est posée par le Seigneur ce matin à nous tous. Est-ce que tu m'aimes vraiment de tout ton cœur? Est-ce que je suis ton premier, ta priorité? Parce que là, dans la première question, Jésus pose cette question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations avec cette phrase. Il est en train de dire, est-ce que ton amour pour moi est beaucoup plus grand que l'amour que les autres portent pour moi? Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, c'est, est-ce que tu m'aimes plus que? C'est à peu près pareil. Hein, ou la troisième question, c'est, est-ce que tu m'aimes plus que toutes les autres choses que tu privilégies? Hein? On pourrait privilégier beaucoup de choses. Hein? Et peut-être mettre de côté Dieu. Mais en tout cas, ce qui est, dans toutes les interprétations, ce qui est sûr, c'est que, est-ce que tu mets Dieu en première place? Est-ce qu'il est dans first class, hein, dans l'avion? Est-ce que Dieu est vraiment ta priorité? Peut-être que ça n'a rien à voir avec ma prédication. Ça me fait penser un petit peu à ma cousine. Ma cousine était à plein de copains-copines. Elle était célibataire à ce moment-là. Et puis, elle buvait de l'alcool. Elle était ivre-mort, donc dans ce magasin. Et puis, il faut que quelqu'un l'emmène. Hein? Donc, le serveur, il prend le téléphone. Donc, c'était toujours ouvert. Et il fait le numéro 1. En fait, vous savez, il y a la priorité. Hein? Souvent, on met numéro 1 celui qu'on aime le plus ou qu'on est le plus proche. Souvent, c'était... Ça pourrait être les parents, ou peut-être ça pourrait être le petit copain, la petite copine. Hein. Et il fait numéro 1, et il y a un gars qui prend. Oui, bonjour. En fait, c'était juste un ami. Mais il a su par la suite qu'il était le numéro 1 dans son cœur. C'était l'amour caché qui a été dévoilé, et finalement, ils se sont mariés. Lui, il a été touché que cette personne avec qui il avait une bonne relation, hein, donc ma cousine avec qui il avait une bonne relation, l'aime, que je suis sa priorité. Et il a ouvert son cœur et ils se sont rapprochés entre eux. Même entre les hommes, quand on sait que l'autre a un sentiment de priorité pour moi, on ouvre, etc. Combien de plus le Seigneur serait vraiment heureux si on avait cet amour de Dieu pour lui, en lui disant, Seigneur, oui, tu es ma priorité. Tu es plus que toute autre chose. Oui, Dieu nous a déjà montré son amour inconditionnel en nous envoyant son Fils unique. Et il aimerait aussi qu'on le ressemble un petit peu quand même. Qu'on ait un amour pour lui. Pourquoi il a dit aussi trois fois? Vous savez qu'il avait rogné, Pierre avait rogné trois fois. Il avait besoin d'une guérison intérieure. Alors ce qu'il fait, c'est il le fait répéter trois fois aussi pour que toute cette blessure, ces traumatismes qu'il a, même s'il s'est repenti par la suite, il se peut qu'il y ait encore quelque chose qui est resté dans son cœur et avec cette relation, avec ces trois questions, pour qu'il puisse répéter trois fois la même chose, qu'il le guérit, il voulait vraiment le restaurer, le guérir complètement, sortir de ce traumatisme. Et dans cette démarche de sortie de traumatisme, il fait encore plus fort. Au verset 21, enfin plutôt au verset 9, il est dit, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Voilà, ils arrivent et il y a le charbon allumé. Et là, Jésus attend avec la chaleur, avec de la nourriture. Et vous savez, le charbon ardent, ou plutôt le charbon allumé qui apporte la chaleur, où est-ce qu'on peut revoir encore dans le Nouveau Testament? Comment? Oui, ça c'est dans Romains 12. Romains, oui. Prétoire? Exactement, voilà. Après, voilà, au moment du reniement, il va voir la lumière, enfin plutôt il va se réchauffer devant le charbon ardent. Et avec la lumière de cette lumière de chaleur, c'est comme ça que la servante le reconnaît comme un de ses serviteurs. Et donc, ça apporte une mauvaise image peut-être. Hein? Mais là, il change, il a à peu près les mêmes conditions, mais il change complètement. Les mauvais souvenirs, il les transforme complètement. Oui. C'est Pierre, je vous avais dit que c'est Pierre qui s'est jeté dans la mer pour venir voir Jésus. Donc c'est lui qui avait le plus besoin de la chaleur. Et le Seigneur, bien sûr, il fait effacer tous ses mauvais souvenirs. Il le réchauffe, il l'accueille, il lui montre aussi son amour et il veut vraiment en retour, son disciple l'aime aussi. Il lui montre l'exemple. J'aimerais conclure. Pierre a été restauré et par cet événement. Mais sachons aussi que nous avons aussi peut-être besoin de restauration. Si nous nous sommes éloignés de cet amour que nous avions peut-être reçu auparavant. Le Seigneur nous dit, mais est-ce que tu m'aimes vraiment ? Est-ce que tu es prêt aussi à me mettre dans ta vie comme priorité absolue? Est-ce que tu peux vraiment m'aimer avec un amour inconditionnel? Inconditionnel. Je dois vous avouer, en préparant ce message, je me suis repenti hier soir, très tard, à 1h du matin. Pourquoi ? Parce que j'aime bien, vous savez, le tennis. Et hier soir, il y avait le match de Federer qui a duré pendant 3h30 jusqu'à 1h du matin. Donc, je me suis dit, mais Seigneur, je sais que demain, il y a le culte. Mais c'est Federer, mon idole, qui fait peut-être son dernier match dans Roland-Garros. J'aimerais quand même le poursuivre. Après avoir visionné, et j'étais super content parce qu'il a quand même gagné encore. Et je me suis dit, mais Seigneur, oui, c'est vrai que là, encore une fois, tu n'étais pas ma priorité. C'est mon hobby qui était un peu, qui m'a pris dessus. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Mais le Seigneur encore nous pose cette question. Est-ce que tu es vraiment sûr que je sois ta priorité numéro un? Le Seigneur vraiment est un Dieu tellement un bon pédagogue. Vous voyez un petit peu comment il s'est approché de Pierre pour le faire restaurer, guérir complètement son traumatisme, sa guérison. Un formidable pédagogue. Et il fait aussi exactement la même chose avec chacun d'entre nous. Je ne sais pas où vous en êtes, mais sachez que Dieu est en train de travailler dans votre vie, en ce moment même, pour que nous puissions progresser, pour que nous puissions être guéris aussi comme Pierre qui a été guéri, qui est sorti de ce traumatisme, pour crier haut et fort qu'il aime vraiment et que le Seigneur le sait. Et c'est pour ça que lui qui était un poltron, un craintif, par la suite, après avoir reçu le Saint-Esprit, il était prêt même à donner sa vie. Et d'ailleurs, il a donné sa vie pour le Seigneur. Il a connu vraiment une grande transformation. Il a reçu une grande leçon aussi de la part de Dieu, avec l'amour parfait qu'il a déjà montré. Et j'aimerais ce matin encore vous dire juste cette phrase, enlevons cet amour superficiel que nous pourrions avoir vis-à-vis du Seigneur, mais ayons un amour profond, un amour sincère, authentique, que le Seigneur recherche auprès de nous. Amen. Je vais prier. Seigneur, ce matin, tu poses encore cette question. M'aimes-tu ? Et je t'avoue, Seigneur, je ne peux pas te répondre toujours que je t'aime plus que toute autre chose, parce qu'il m'arrive aussi de chuter. Mais je sais que tu travailles en moi pour que je progresse. Et de même, tu fais exactement la même chose avec tes enfants en ce moment même. Je suis vraiment certain que là, ce matin, tu vas encore nous reposer cette question. Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Que nous puissions aussi répondre comme Pierre, oui, je t'aime. Et tu le sais très bien. Que nous puissions vraiment être transformés, être guéris, restaurés, si nous avons besoin d'être restaurés. Pour que tu puisses nous utiliser comme des vrais ambassadeurs, comme des vrais témoins fidèles, qui puissent apporter une grande influence dans le monde, Seigneur. Pardon toutes les fois où nous avons fauté. Pardon pour nos faiblesses, nos manquements. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu agisses puissamment maintenant en nous, au nom de Jésus, Seigneur. Agis puissamment. Au nom de Jésus. Amen.